Avez-vous remarqué que Jésus, chassant les vendeurs du temple, renvoie surtout les animaux? Les animaux et l'argent, mais surtout les animaux. Il existait d'autres produits en vente, c'est-à-dire de la terre et du sol. Par exemple, on lit dans un des livres de la loi, le livre des Lévites, « Si tu offres au Seigneur une oblation de prémices, c'est sous forme d'épis grillés ou du pain cuit avec du blé moulu. » Il y avait toutes sortes d'offrandes qu'on appelait de prémices ou d'oblations, de petits gâteaux, de farine. Ils avaient évidemment moins de valeur que les animaux, d'autant que chacun se souvenait de la différence des offrandes de Caïn et d'Abel. De Caïn et Abel. On remet dans le bon sens. Puisque Caïn avait offert des produits du sol, c'était un cultivateur, ses offrandes n'avaient pas été agréées, tandis que Abel, qui avait offert les premiers-nés de son troupeau, lui avait été béni par le Seigneur. Et lui-même d'ailleurs, d'une certaine façon, ensuite immolé. Jésus renvoie du temple ce qui est animal, et également ce qui est monétaire, mais il ne touche rien de ses mains. Il prend un fouet pour le bétail. Il fait tomber la monnaie en renversant les tables. Il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici !» Mais lui-même ne touche rien de ses propres mains, car la première dimension du sacré, c'est de savoir ce que l'on peut toucher. Et je voudrais, dans la suite de mes réflexions que je vous ai proposées pour ce temps de carême sur la sexualité, que nous puissions faire le point justement sur ce sujet. D'autant qu'un des changements les plus importants que nous vivons en France depuis des décennies, c'est cette facilité désormais avec laquelle nous nous embrassons, à tout bout de champ. Regardez à la télévision, regardez partout, entre nous, quelles que soient les influences, on s'embrasse, on s'étreint, on se câline, que ce soit un abbraccio à l'italienne, quel que soit soit méditerranéen, ou alors le big hug, un geste de tendresse à l'américaine. Nous sommes devenus la société de l'étreinte et du câlin. Partout, à tel point que Rome a dû publier une note pour la messe pour appeler à plus de sobriété dans le geste de paix. Nous sommes une religion de la solennité. C'est vrai de toute religion. Probablement pas à ce point-là. Vu le silence qui est demandé à l'assemblée, la distance respectueuse par rapport au cœur, au sein des saints, au sanctuaire, le rituel, la liturgie extrêmement codifiée, qui sont autant de signes de l'obéissance et de l'humilité des croyants. Une façon de dire, cela ne nous appartient pas. Nous sommes des héritiers, des servants. Nous sommes les descendants d'un peuple de saints. C'est la formule que Tobie, dans l'Ancien Testament, utilise. Le soir de son mariage, il va passer au lit avec sa jeune épouse. Il dit, ah, stop ! Nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils se relèvent et ils se mettent d'abord à prier avec ferveur. La solennité de nos célébrations exprime la grandeur de l'amour de Dieu. Pas seulement la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Et nous assumons le reproche qui nous est fait sans cesse de manquer de légèreté. De manquer de légèreté, de manquer de fantaisie, aussi bien à la messe que dans la vie. Y compris en matière de sexualité. Nous disons, nous répétons que ce n'est pas un jeu. La question est de savoir si la gravité vient de nous ou du sujet. Si c'est notre approche qui est grave, si c'est nous qui sommes graves, ou si c'est le sujet qui le veut, qui requiert du sérieux. Avant que David devienne roi, un moment de sa vie où il était poursuivi par le roi Saül, qui était rongé par la jalousie qui voulait sa mort, survient un épisode assez scabreux, où Saül, qui est à la tête de son armée, fait arrêter l'armée, et puis il entre dans une grotte pour se soulager. pour faire ses besoins. Oui, c'est dans la Bible. Or, que se passe-t-il ? David est au fond de la grotte, caché, réfugié avec ses hommes. Et ils disent « Vas-y, tue-le » L'aubaine est trop fort. David s'approche, si près qu'il peut couper un petit morceau du manteau de Saül, et à ce moment-là, le cœur lui bat, il s'arrête. « Que le Seigneur me préserve de porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur, sur celui qui est consacré. » Et l'enseignement est si important qu'il est répété deux chapitres plus loin, là, pendant le sommeil de Saül et dans la nuit pendant que toute l'armée dort. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui est consacré? Ah, si nous pouvions avoir le même respect dans le domaine sexuel. Ah, si hommes et femmes de foi, si les fidèles du Christ pouvaient s'abstenir de relations qui ne sont pas consacrées. Quand Dieu a donné la loi à son peuple, ce que nous avons entendu en première lecture, les 10 commandements, juste après la libération d'Égypte, en arrivant à la montagne de Dieu, du Sinaï, et ce fut en quelque sorte, pour que nous puissions le comprendre, sa confirmation. La traversée de la mer Rouge, ça a été son baptême. Et le don de la loi, c'est ce que nous fêtons à la Pentecôte, c'est la confirmation. Eh bien, ça a été précédé d'une mise en garde extrêmement sévère, où tout le peuple a été appelé à se sanctifier pendant 3 jours, aujourd'hui et demain jusqu'au 3e jour, et Moïse a dit, gardez-vous, pas seulement de monter, de gravir la montagne, mais même d'y toucher. Et celui qui toucherait la montagne serait exécuté, passible de mort. Et non seulement il serait passible de mort, mais même celui, le contrevenant, qui devrait être effectivement exécuté, tu ne le toucheras pas. Il sera tué avec, de loin avec des pierres ou des flèches. Pourquoi le Seigneur, à ce moment-là, a-t-il ordonné au peuple cette distance sacrée? Toute l'Écriture y répond. Pour garder mes paroles. Pour écouter. Écoute Israël. Nous sommes ainsi faits que plus nous nous touchons, moins nous nous écoutons. Et inversement, pour les couples mariés, plus vous vous écoutez, mieux vous vous touchez. Il y a un temps et un lieu pour tout. Alors cette propension moderne aujourd'hui à nous embrasser s'explique évidemment par un rééquilibrage. Il y a eu des siècles de jansénisme, de rejet totalement injuste et infondé du corps. Nous le comprenons, nous y consentons, à commencer par le pape François qui accueille, qui embrasse, qui bénit à la manière dont Jésus accueillait les enfants. Mais attention les enfants, et les parents, vous pouvez leur répéter aux enfants. En dehors de la présence des parents, personne de vos parents, personne n'a le droit de vous toucher. Car vous êtes sacrés. Et vous aussi, au fur et à mesure que vous grandissez, vous apprenez ce que vous avez le droit de toucher. Vous apprenez surtout à parler, à communiquer par le langage, par la parole. Parce que c'est notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est notre façon de communiquer, de nous connaître, de nous parler, de nous écouter, de nous aimer. La parole est la façon dont Dieu se fait connaître. Il nous dit par son verbe, c'est le verset d'acclamation de l'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile de dimanche prochain, à quel point il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné le verbe de Dieu, la parole éternelle du Père, afin que quiconque l'écoute croit en lui et la vie éternelle. Alors sur cette question de la distance respectueuse, je me suis quand même posé à moi-même la question, comme je vous invite tous à se demander comment est-ce que ça se passe dans notre vie. Je me suis posé la question parce que, effectivement, à la sortie de la messe, j'embrasse beaucoup. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça convient? Souvent, il s'agit de personnes avec qui et pour qui j'ai beaucoup prié, avec qui j'ai vécu des événements forts, de maladie ou de deuil. Mais voyez dans l'évangile comment Jésus touche, va toucher ceux qui sont rejetés, le lépreux que personne n'a le droit justement de toucher, et inversement garde à distance, par exemple Marie-Madeleine qui déborde d'émotion dans la joie de le retrouver. « Ne me touche pas, nos limites en guérir. » Il y a un discernement à demander à l'Esprit-Saint sur le langage à employer. Ce n'est pas aussi binaire. Quel langage employer ? De la parole ou du corps ? Quelle parole, effectivement, d'affection ? Quel geste de tendresse ? À quel moment ? C'est la question du sacré, le temple dont il parlait, c'était son corps. Et saint Paul en a fait une extension magnifique en nous l'appliquant à nous-mêmes. « Ne savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint ?» Jésus savait ce qu'il y avait en l'homme, ce qu'il y a en l'homme. Toute la part d'animalité qui peut être la nôtre. Jésus renvoie du temple ce qui est animal. Alors, il faut dire que dans la Bible, l'animal symbolise surtout l'impureté, et en particulier l'impureté alimentaire, parce que, et c'est pour ça que les pires sont les chiens, les cochons qu'on n'aime pas dans la Bible, parce qu'ils mangent n'importe quoi. Dans notre culture occidentale, la chose s'est un petit peu déplacée, le bestiaire, le registre animal, symbolise plutôt un défaut d'intelligence. Vous savez, ces animaux qu'on appelle des bêtes, les ânes, les cervelles d'oiseaux, les autres têtes de linotes. Ce n'est pas la même chose dans la symbolique sexuelle. L'animal représente ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui échappe à la volonté. Ah, je n'ai pas pu m'empêcher. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était sourd, et dit le texte nécessairement, qui avait du mal à parler. Il l'a emmené à l'écart, loin de la foule, et là, il a posé des gestes très étonnants de proximité, d'intimité. Il a mis les doigts dans les oreilles, avec sa salive, il lui a touché la langue. Comment est-ce qu'on le sait ? Il y a des témoins qui ont vu ça de loin, qui n'étaient pas trop loin pour pouvoir le voir ? Est-ce que c'est l'homme qui a été guéri qui l'a raconté, alors que Jésus lui avait interdit d'en parler ? Ce qui est important, c'est que l'homme a été guéri, c'est-à-dire qu'il a pu à nouveau entendre et parler. C'est la guérison que nous pouvons tous demander. C'est la guérison à demander, pas uniquement sur la question de la maîtrise de notre sexualité, de pouvoir écouter et parler. C'est la guérison que nous pouvons demander, y compris pour nous, pour l'Église, que l'Église soit ce lieu que nous vivons ce matin où nous formons un même corps à l'écoute du Seigneur, pour accueillir son amour, l'accueillir et répondre, en vivre. En un mot, apprendre ce qui est sacré pour apprendre à aimer.